La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de La Voix des Arts pour continuer de découvrir avec moi les créatrices artistes russes du début du XXe siècle. Un vent révolutionnaire a soufflé et continue de balayer tout le pays en portant dans son sillage les vestiges du passé et aussi, hélas, les espoirs et les illusions d'une partie du peuple, et notamment ceux d'une majorité d'artistes et d'intellectuels dont la pensée ne pouvait se soumettre au diktat du pouvoir en place, qui a choisi, et vous le verrez, de se débarrasser bien souvent, à titre préventif parfois, de ceux jugés dangereux uniquement de par leur singularité ou leur capacité de réflexion. Mais nous allons découvrir tout cela au fur et à mesure. Alors l'émission précédente, avec un peu d'histoire pour comprendre le contexte, je vous ai présenté quelques avant-gardistes et notamment des femmes plasticiennes, décoratrices, designers, poètes, qui ont mis leur talent au service du nouveau régime. Et c'est notamment ces créatrices qui ont été désignées comme les 6 Amazones. Alors vous avez pu également faire la connaissance d'une musicienne compositrice, celle-ci réfugiée en France encore enfant, pour fuir le nouveau régime bolchévique. Vous savez maintenant que le fameux chant des partisans a été composé par cette femme, nommée Anna Betulinskaya, de son nom d'artiste Anna Marley. Alors qui allons-nous rencontrer aujourd'hui ? Bon, je vous réponds bien évidemment que ce seront des femmes, des créatrices, et nous allons commencer par l'une d'elles, une également qualifiée d'avant-gardiste, dans le sens où elle regarde vers l'avenir et cherche à renouveler dans la modernité de l'époque l'art et la création. Et elles seront plusieurs à rencontrer le succès en Russie sur la terre de leurs aïeux. Aussi je citerai Vera Pestel, laquelle est née en 1887. Elle était peintre, dessinatrice, designer. Bon, apparemment, elle voyagera beaucoup et se formera auprès de peintres de renom. Sa peinture plutôt abstraite, malgré un peu de figuration, présente des formes géométriques d'inspiration cubiste. Elle introduira également le collage à certaines de ses œuvres. En tout cas, ce que j'ai pu voir sur Internet propose des œuvres dont la plupart expriment une belle harmonie, avec une structure générale bien équilibrée entre formes et couleurs. Bon, ce que vous pourrez constater par vous-même si vous vous donnez la peine de chercher Vera Pestel sur Internet. Quant à la peintre illustratrice Vera Ermoleva, née en 1893, elle naît dans un milieu privilégié, ce qui lui permettra d'évoluer plutôt avec aisance dans sa vie artistique, même si une chute de cheval lui ôte en partie l'usage de ses jambes, si bien que toute sa vie, elle sera obligée d'utiliser des béquilles. Et de plus, elle subira précocement une fin de vie dramatique, dont je vous informerai par la suite. Mais voyons d'abord les débuts. Alors, elle commencera tout d'abord à étudier en Europe, à Paris, puis ensuite en Suisse, pour enfin revenir en Russie, où elle commencera à fréquenter ateliers d'art et s'intéresser ainsi au cubisme, au futurisme, tendance de l'époque, ce qui l'orientera à rejoindre différents mouvements impulsés en Russie. Elle sera également membre d'associations d'artistes, l'une intitulée « Liberté pour l'art », l'autre « Art et révolution », tout un programme, bon, pas étonnant pour une Russe du début du XXe siècle. Et en parallèle, elle poursuivra des études d'histoire à l'Institut archéologique de Saint-Pétersbourg. Bon, elle innovera aussi, apparemment dans sa façon de réaliser des livres illustrés pour enfants, avec une technique assez insolite, composée de gravures en linoléum et de découpage. Or, c'est une femme qui me semble assez touche-à-tout, qui est présente sur bien des fronts, qui s'initie à bien des pratiques artistiques différentes, la peinture, le dessin, les décors de théâtre. Elle sera comédienne également et aussi graphiste de livres de poètes et d'écrivains russes comme ceux de Nikolai Assaïev ou Daniil Arms, si ces noms vous disent quelque chose. Elle deviendra également directrice adjointe du peintre bien connu Chagall dans la première école artistique de Biélorussie qui est située à Vitebsk, j'ai bien prononcé, où règne une certaine émulation entre artistes avec des idées novatrices, non seulement en matière d'art, mais aussi sociétale. Et elle participera avec Malevitch et d'autres artistes russes à la création d'un genre de laboratoire expérimental pour un art avant-gardiste où la théorie du suprématisme dont je vous ai parlé et initiée par Malevitch régnerait avec sa dynamique particulière. Alors toutes ces idées avant-gardistes devaient se répandre dans la société russe, aussi bien en architecture, en décoration ou en design, pour les objets du quotidien, art plastique, et ainsi s'accorder à l'esprit du temps. Et ce groupement sera nommé Unovis. Mais apparemment, le régime en place réprimera cette belle énergie qui retombera par la force des choses comme un soufflet. Aussi, après l'épisode Vitebsk, Vera Ermoleva ira à Petrograd où elle rebondira en devenant la directrice d'un institut d'état de culture artistique nommé le Jinkouk. Et par la suite, elle s'occupera de l'organisation de réunions entre artistes suite à la création d'un groupe de peintres et de plasticiens dont l'objectif était de faire évoluer l'art pour l'appliquer ensuite dans la société. Donc vous pouvez constater que son handicap ne l'a pas empêché de courir, hein, entre guillemets, dans bien des directions. Alors malheureusement pour elle, cette belle énergie sera interrompue dans son expression par le fait que l'association d'artistes dont elle était l'organisatrice fera l'objet de dénonciations, d'accusations, de délations, hein, comme étant une organisation d'intellectuels anti-soviétiques et donc une menace pour le pouvoir communiste en place. Alors, vous avez compris que ce régime dictatorial imposait sa loi, à ce qu'il paraît, au nom d'un peuple qui, pour la plupart de ses membres, ne comprenait pas toujours quelles décisions populaires avaient bien pu être prises pour se retrouver au goulag, c'est-à-dire en camp de travail ou face à un peloton d'exécution. Bon, apparemment, c'est ce qui a dû arriver à Vera Ermoleva, car elle sera arrêtée, jugée et condamnée, en premier lieu à purger une peine d'emprisonnement qui par la suite se transmutera en peine capitale, si bien qu'elle sera fusillée par le régime en 1937 à l'âge de 40 ans et il faudra attendre une cinquantaine d'années pour réhabiliter sa mémoire. Alors, je trouve que c'est un curieux destin que celui de cette femme empêchée d'avancer à cause d'un handicap physique et qui, malgré tout, brave le destin avec une belle soif, peut-être de revanche, en tout cas bien décidée à avancer, à se projeter dans de multiples directions artistiques, malgré tout, et qui est fauchée dans son élan, à la fleur de l'âge, par ceux même sur qui elle a dû compter et avec qui elle a dû partager et échanger les idées novatrices et révolutionnaires. Alors après cette triste fin qui n'est pas la dernière en terre russe pour les artistes, nous allons nous remettre de nos émotions en faisant une petite pause musicale. Je vais juste vous présenter la compositrice qui elle se nomme Galina Utsvolskaya. Elle est née en 1919 et décédée relativement tardivement en 2006, à l'âge de 87 ans. Alors elle est cataloguée comme moderniste, elle fut l'élève du compositeur Shostakovich au conservatoire de Leningrad, et celui-ci, élogieux, aurait dit d'elle, et je vous le lis, « Je suis convaincue que la musique de Galina Ivanovna Utsvolskaya sera appréciée par tous ceux pour qui la vérité en musique est de première importance. » Alors apparemment, elle avait tissé un lien privilégié avec son professeur tout en étant consciente de sa singularité qu'on lui a reconnue car elle a su répondre aux critiques lorsque ceci l'assujettissait à Shostakovich, niant ainsi son autonomie et indépendance musicale. Et elle aurait dit, et je vous le lis, Il n'y a absolument aucun lien entre ma musique et celle d'un autre compositeur. Alors, c'était une femme de caractère, apparemment, qui savait en tout cas ce qu'elle voulait, ce qu'elle était et ce qu'elle voulait. Ses relations avec le régime politique de la Russie étaient mitigées, controversées. Bon, elle a peut-être dû faire profil bas pendant un moment par obligation économique, par protection, qui sait. Car dans les années 50, elle s'accorde avec le régime en composant, entre autres, des musiques de films. Puis dans les années 60, elle le rejettera et se maintiendra loin de la vie politique et institutionnelle de Leningrad, donnant d'elle une image quelque peu misanthrope ou de repli sur soi. Et elle sera d'ailleurs peu diffusée dans son pays, mais obtiendra quand même une reconnaissance, même si celle-ci est tardive, et surtout elle sera de portée internationale et notamment en Europe. C'est une musique décrite comme expressive, intense, dramatique, voire étrange, austère, hiératique, avec un style unique. Enfin, voilà tous les qualificatifs que j'ai relevés et qui se répètent au long de mes recherches. Elle a même été qualifiée de femme au marteau, tant les sons pouvaient être violents avec comme des coups réguliers et répétitifs, si je puis dire. Bon, ceci dit, sa musique a évolué au cours du temps. Les années 80 rajoutent à son intensité. Il est dit que la musique était pour elle une activité spirituelle. Elle aurait dit également, je vous le lis, « Tout le processus de composition est accompli dans ma tête et dans mon âme. Moi seule peux déterminer le chemin de ma composition. » Alors elle a composé, comme je l'ai dit, des musiques de films, symphonies, sonates pour piano, des musiques religieuses, on va dire, et avec des titres évocateurs, une symphonie, la numéro 3 intitulée « Jésus, Messie, sauve-nous », des compositions comme « Un dies et ciré », ou une autre intitulée « Benedictus qui venit », et etc. Mais pour pleinement vous rendre compte de la musique de Galina Ust-Volskaya, rien de mieux que vos oreilles, qui vont être mises à contribution, pas plus tard que maintenant.
Thank you.
Alors voilà pour Galina Ustvolskaya qui vous a donné à entendre ces fameux coups de marteau. Alors encore une autre plasticienne, hein, nommée Ruzhena Zadkova, née en 1885, qui était peintre et sculptrice. Elle était tchèque, futuriste également. Elle fut l'élève de l'italien Bala, d'ailleurs. Ses œuvres pictorales sont très colorées. Quant à ses sculptures, mais il est dit qu'elle y intégrait toutes sortes de matériaux hétéroclites, fer, bois, carton, verre, perles. Et malheureusement, et d'après ce que j'ai lu, il ne reste que des photos pour témoigner de son travail. Alors c'est une personne quand même dont l'œuvre a été remarquée, mais qui est décédée prématurément de la tuberculose à l'âge de 38 ans. Alors c'est encore Ksenija Boguslavskaya, née en 1892, une artiste peintre avant-gardiste, adepte du suprématisme, ce mouvement conçu par l'artiste russo-polonais Kazimir Malevitch, basé sur l'équilibre dynamique de formes géométriques colorées. Elle participera d'ailleurs à la création d'un groupe d'artistes avant-gardistes Supremus, dont le chef de file a été Malevitch. Elle était aussi illustratrice et décoratrice de théâtre. Elle avait entamé des études d'art dans la Société impériale des beaux-arts de Saint-Pétersbourg pour les poursuivre à Naples et ensuite à Paris à l'Académie Vassiliev, fondée par une compatriote russe nommée Maria Ivanovna Vassilieva, laquelle recevra dans son académie tous ceux qui deviendront les grands noms de la peinture du XXe siècle et qui sont bien connus maintenant. L'Espagnol Picasso, le Biélorusse Marc Chagall, l'Italien Amedeo Modigliani, le Français Fernand Léger, j'en passe. Alors Maria Vassilieva était aussi peintre, dessinatrice, mais avait d'autres cordes à son arc. Elle créait du mobilier, elle était décoratrice, connue surtout pour confectionner des poupées, marionnettes très remarquées, insolites, à l'effigie de personnes connues, des masques également. Donc encore une artiste russe qui, elle, s'est davantage convertie en parisienne. Mais revenons à Ksenija Boguslavskaya, excusez-moi, qui participera au renouveau russe en décorant également les rues de Petrograd pour le premier anniversaire de la révolution bolchévique. Alors entre-temps, elle aura épousé un peintre franco-russe nommé Jean Pougny et apparemment elle aussi, escortée de son mari, sera obligée de fuir l'Union soviétique pour assurer sa protection, ce qui la fera passer par la Finlande, puis en Allemagne, à Berlin, où elle exercera ses talents de décoratrice de théâtre. Et ensuite, elle s'établira à Paris avec son mari pour devenir créatrice de vêtements de haute couture et y finira sa vie en 1971, à l'âge de 78 ans. Alors, une autre femme russe entre encore en scène, nommée Valentina Koulagina, elle a un nom plus facile à prononcer, née en 1902, une grande constructiviste grand teint appliquée au graphisme sur différents supports comme le livre, l'affiche. Alors le constructivisme, je le répète, est ce mouvement révolutionnaire qui prônait une esthétique nouvelle dégagée de toute spiritualité et où le fonctionnel se devait être la caractéristique essentielle. Donc c'est tout un art tourné vers les contingences ordinaires du quotidien. Et ce sera le cas en architecture, en design, également au travers des objets usuels, de la décoration adaptée au théâtre, au cinéma, également en expression plastique comme en peinture et en sculpture. Bon, le but étant de créer un art prolétarien, c'est-à-dire un art parfaitement reconnaissable, familier, compréhensible par tous, en opposition à la culture dite bourgeoise. Et donc cet art est celui lié à la condition du peuple, confronté au progrès de la modernité et à l'expansion industrielle, pratique et concrète. Alors Valentina Koulagina fut l'épouse de Gustave Klusis, lui-même artiste peintre constructiviste, qui, malgré son adhésion à l'unique parti politique communiste de l'Union soviétique, le PCUS, et ses activités artistiques en faveur du régime sera arrêté par la police politique et exécuté avec d'autres artistes et intellectuels à l'âge de 43 ans. Alors, c'était quasiment une tradition bolchévique de supprimer violemment les artistes ou intellectuels, même ceux qui adhéraient à la ligne de l'unique parti accepté par le pouvoir. Et vous le constaterez encore, tant que nous serons en Russie, courant XXe siècle, ce sera monnaie courante. Alors Valentina Koulagina et Gustave Klusis ont surtout travaillé ensemble pour réaliser des affiches officielles en utilisant notamment la typographie, la lithographie qui est une technique de gravure. Alors la partie plus personnelle tournera autour de la photographie où ils expérimenteront des techniques comme le photomontage, dont assemblage de photos, la superposition. Et elle sera également designer pour concevoir les objets du quotidien et aura suivi pour toutes ses pratiques des formations artistiques, notamment dans une école russe supérieure d'art et de technique. Alors certainement d'autres peintres plasticiennes ont évolué au moment des événements particulièrement perturbateurs, perturbants, voire outranciers survenus lors de la révolution russe ou bolchévique plutôt. Et je ne peux pas les mentionner parce qu'elles n'ont pas croisé mon chemin, ou l'inverse aussi. Bon, ce qu'il faut retenir de ce que je viens de vous présenter, c'est que la soif de renouvellement des artistes, leur désir d'évolution et de changement était palpable, en accord pour la plupart avec ceux éprouvés par le peuple russe dans son ensemble. Sans doute la griserie éprouvée dans ce contexte révolutionnaire s'est émoussée face à des dangers bien concrets. Aussi, les désillusions ne se sont pas fait attendre, ni l'effroi face à une mort annoncée, ou parfois au mieux, à moins que ce ne soit le pire, face à l'exil. Et nous constaterons l'émission prochaine combien certaines ont pu souffrir dans leur âme, si ce n'est dans leur chair, pour des raisons qui dépassent l'entendement. Mais j'espère bien que vous m'accompagnerez encore pour rencontrer ces femmes qui méritent toutes, malgré le contexte sociopolitique défavorable pour elles, et c'est sur ces paroles, que j'espère bonnes pour votre enrichissement personnel, que nous allons nous quitter et que je vous remercie de votre écoute.
La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.